Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre vie. On va passer les deux prochaines heures ensemble, puis on a beaucoup de choses à discuter parce que c'est la saison des impôts. En fait, vous allez peut-être commencer à ramasser vos feuillets, à regarder ça. On aura dans la deuxième heure d'émission la chance d'avoir un expert comptable avec nous qui va nous donner plein de trucs et qui va pouvoir répondre aussi à toutes vos questions en ce qui concerne les impôts. On va essayer de vous donner des trucs, oui. Pourquoi? Ben pour essayer d'en économiser un petit peu des impôts. On est assez imposé au Québec, on le sait, on est parmi ceux qui en payons le plus. En plus de ça, ben, il y a toujours des changements fiscaux, soit dans votre déclaration fédérale ou dans votre déclaration provinciale. Souvent, on n'est pas au courant. Ça prend vraiment un expert comptable pour nous dire ce qui a changé et on aura l'occasion de le faire tout à l'heure en deuxième heure. On viendra aussi sur la question des REER, des CELI. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit là-dessus depuis qu'on en a parlé la semaine dernière aussi avec Fabien Major. Donc, on reviendra sur ces questions-là. C'est assez important, hein? On travaille fort pour notre argent. On a de la misère aussi. En tout cas, ça nous arrache un peu le cœur de laisser aller quasiment la moitié de ce qu'on gagne, mais c'est comme ça. On reviendra aussi peut-être avec notre expert comptable sur la question du rapport d'impôt unique. Vous me direz ce que vous en pensez. En première heure d'émission, je vais vous proposer une discussion sur un sujet qui est d'actualité parce que ça touche la santé. On sait qu'au Québec, entre autres, au Canada, on a un risque sur deux de développer le cancer. Et il y a une histoire que vous avez sans doute vue qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est celle de Caroline Auger. C'est une jeune femme de 27 ans qui a appris quelques semaines avant d'accoucher qu'elle était enceinte, atteinte d'un cancer dont on lui a dit qu'il était incurable. Ce qu'elle s'est fait dire, c'est que finalement, au Québec, on pouvait pas vraiment faire plus que l'opérer. Ce qu'elle aimerait, Caroline, c'est avoir aussi une opération, oui, mais également des traitements d'immunothérapie. On lui a dit, ben, Madame Auger, ici au Québec, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Or, il semble qu'aux États-Unis, elle puisse avoir accès à l'immunothérapie. Là, vous allez me dire, mon Dieu, c'est bien compliqué. Il y a pire que ça. Il y a aussi le fait que n'ayant pas les ressources comme ça pour aller se faire soigner ailleurs, Caroline a décidé avec son conjoint de lancer une espèce de campagne de financement. Une campagne qui a bien marché jusqu'à maintenant. Là, il y a d'autres médias, entre autres Denis Lévesque, vous l'avez peut-être vu, a parlé du cas de Caroline. Et aujourd'hui, sur son GoFundMe.com, la page Caro Auger, on peut voir qu'elles ont ramassé, c'est impressionnant, presque 190 000 $ au moment où on se parle. C'est incroyable la générosité des Québécois devant cette histoire. Juste ça, c'est un sujet qui va faire beaucoup discuter, j'en suis sûre, ce matin, parce que d'abord, Caroline Auger est avec moi. Merci d'être là.
Ça fait vraiment plaisir.
Merci beaucoup, beaucoup. Je suis ravie de vous rencontrer. Votre histoire m'a beaucoup touchée parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes une maman, parce qu'on comprend tellement votre désarroi, puis en même temps, vous avez l'air d'être une battante, puis de ne pas vous laisser abattre par ce qui vous arrive. Puis pourtant, c'est extrêmement dramatique ce que vous vivez avec votre conjoint.
C'est sûr, mais ce qui me tient en vie, comme je le répète et je vais toujours le répéter, c'est mon garçon. Sans lui, ce serait une autre bataille. Ce serait pas la même chose. Je pense pas que je me serais rendue là où je suis aujourd'hui sans lui. La bataille serait complètement différente. C'est tout ce que j'ai. C'est ce pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui. C'est ce pourquoi j'ai fait Denis Lévesque. C'est ce pourquoi je vous demande de m'aider parce que mon fils a besoin d'une maman. Puis je vais être là pour lui, le voir grandir. C'est absolument nécessaire pour moi d'être là à ses côtés.
Je disais, Caroline, que vous avez 27 ans avec votre conjoint. Vous êtes éducatrice en garderie, c'est bien ça?
Oui.
Vous vous étiez projetée dans la vie, l'amour, les enfants. On s'achète une maison, les projets que tous les jeunes font.
Oui, oui, mais en fait, en plus, moi, c'était pas je veux deux enfants. C'était quand je commence à avoir des enfants, c'est la vie qui va décider combien j'en ai. Je ne vais pas utiliser une contraception. Rendu là, le moment où je vais décider, j'ai des enfants, ça va être la vie qui va décider. Si j'en ai un, j'en ai un. Si j'en ai 12, j'en ai 12. Ouais. Donc ça, j'étais prête à ça. Donc c'est sûr que c'est un gros changement dans la vie de se faire annoncer ça parce que veux, veux pas, la fertilité, on la perd en même temps. Mais
À cause des traitements de chimio et de...
Oui, de tout ça. Ça, c'est sûr que j'ai perdu ma fertilité, mais je veux dire, j'ai eu mon miracle, puis c'est ça sur quoi je dois focusser parce que c'est la chose dans la vie laquelle je le voulais le plus, puis je l'ai eu. Donc, que ce soit 1 ou 12, je l'ai eu. J'ai eu mon miracle, donc je focus là-dessus. Et c'est pourquoi je vous demande de l'aide.
Et votre miracle, c'est votre fils Lucas qui a 15 mois aujourd'hui.
15 mois, il y a eu 15 mois le 27.
Et vous, il y a 16 mois, donc un mois avant, c'est bien ça, vous avez appris que vous avez donc ce diagnostic de cancer.
Oui, c'est ça, à 32 semaines de grossesse, j'ai appris mon diagnostic qui était un cancer du col de l'utérus, stade 1B, c'était pas grand-chose. C'était pas un gros cancer en soi, donc ça faisait pas si peur. C'est sûr que le mot cancer fait toujours peur. Quoique les médecins, ils veulent pas te faire peur, ils l'utilisent pas. Ils appellent ça néoplasie, ils veulent pas te faire peur. Donc au début, tu sais pas trop. Mais moi, je m'étais informée avant. J'avais des doutes quand ils ont fait la biopsie. Donc quand ils sont arrivés avec le mot néoplasie, je savais de quoi on me parlait. Mais c'est sûr que de se faire dire que ce stade 1B, c'est rassurant parce que tu te dis, ah, peut-être une trachéloctomie, ça va être suffisant, on va m'enlever juste une petite partie du col, je vais pouvoir peut-être même avoir d'autres enfants parce que c'était possible au départ. Donc, ça ne changeait pas grand-chose dans ma vie, dans mon futur, parce que le fait de vivre encore était possible, le fait d'avoir encore des enfants était possible, ça m'enlevait rien à part un peu de temps, le temps de faire les traitements, mais c'est tout. Sinon, ça ne m'enlevait rien d'autre. Donc, au départ, quand j'ai eu mon diagnostic, ça changeait pas toute ma vie.
C'était pas la fin du monde.
C'est ça.
Puis quand est-ce que ça l'est devenu?
Tranquillement, en fait. C'est surtout la semaine passée, mais tranquillement, parce que j'ai eu des traitements, j'ai eu de la chimio qui a pas fonctionné. La première molécule n'a pas fonctionné sur moi. Je n'ai pas répondu du tout. Donc là, c'était comme une petite déception. Mais en même temps, dans ma tête, c'est sûr que j'allais pas mourir parce que mon garçon était là, donc une autre chimio, quelque chose d'autre va fonctionner. Là, on m'avait proposé de la radiothérapie. J'ai fait de la radiothérapie en même temps que d'autres chimiothérapies. Puis ensuite, la curithérapie. Et tout ça combiné, ces trois traitements-là combinés ont fonctionné. Donc, c'était vraiment merveilleux. Puis ça, c'était positif. C'était toujours positif parce qu'on s'en allait, à partir de ce moment-là, de ce traitement-là, on s'en allait vers une rémission, vers une guérison complète, en fait, du cancer. Donc,
parce que là, vous avez une masse. Est-ce qu'il y a des métastases aussi?
Présentement, oui, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. C'est ça. À ce moment-là, tout était positif. Donc, j'ai eu un été complet où je pensais qu'on s'en allait vers la rémission. Alors ça, c'était merveilleux. C'est sûr que tu ne vis pas pleinement parce que tu te demandes toujours est-ce que ça s'en va encore vers ça. Puis là, quand tu as le résultat du scan, OK, tout est beau, madame, tu vis pleinement, c'est merveilleux. Fait que c'est sûr que à partir de ce moment-là, tout était correct et pour moi, c'était pas la fin du monde. C'est vraiment devenu la fin du monde. La semaine passée, quand j'ai su que mon cancer était non seulement revenu, mais qu'il y avait une métastase au poumon et surtout qu'on pouvait plus rien faire ici au Québec. C'est surtout ça qui a fait en sorte que ça, c'est devenu la fin pour moi, en fait, pour une fraction de seconde. Parce que je me suis laissée abattre une fraction de seconde en sortant du bureau du médecin, même pas dans le bureau, en sortant. Je me suis laissée abattre, puis ensuite, je me suis dit, non, ça se peut pas. Là. Ça peut pas être la fin. C'est la fin au Québec, mais c'est peut-être pas la fin ailleurs. C'est peut-être pas la fin pour moi, nécessairement. Donc, là, je sais aujourd'hui que c'est pas la fin pour moi. C'est la fin ici, mais c'est le début ailleurs. Puis c'est le début d'une rémission pour moi. Je sais parce que j'ai l'appui du Québec, j'ai l'appui d'ailleurs même. On m'a donné de Ontario, on m'a donné de Belgique, de France, on m'a donné de partout dans le monde. Je sais que j'ai l'appui de tout le monde. Puis c'est possible. C'est juste ça qui est important à retenir. C'est possible. Donc, on va tout essayer. On va y aller. On va aller la faire, l'immunothérapie. Puis moi, je souhaite de tout cœur que je réponde. Puis en lançant ça dans l'univers, je vais répondre.
On va creuser ce que vous avez dit. Là. Ici, on m'a dit ici, ben c'est fini. On ne peut plus rien pour vous. Mais avant, je vais vous demander comment vous l'interprétez, cette vague d'amour, puis de compassion, puis de générosité, parce que vous avez, je le disais, là, on vient de vérifier, en ce moment même, c'est 189 533 $, puis je serais pas étonnée que depuis 5 minutes, 5-10 minutes, ça se soit rajouté. Je rappelle que c'est sur la page GoFundMe.com, page Caro OG, puis je vous avoue que en vous écoutant, Denis Lévesque, je me suis dit, mon Dieu, mais je veux contribuer, je veux l'aider, Puis Denis disait à ce moment-là, vous étiez, je pense, à 120 ou quelque chose comme ça, 120 000. Puis Denis disait, faut faire l'autre bout là, pour se rendre à 175. Puis là, parce que ce sont des traitements coûteux. Mais aller chercher quasiment 200 000 piastres de gens qui ne vous connaissent pas. Comment vous expliquez ça?
En fait, je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. 200 000, c'est la valeur de mon hypothèque au complet. C'est ma maison. C'est juste incroyable ce que les gens m'ont donné.
Pourquoi vous pensez que votre histoire touche comme ça?
Je pense
parce que c'est du monde qui est encore ensemble.
Parce
y en a
que
beaucoup,
je suis une personne simple. Je suis juste une simple citoyenne comme n'importe qui d'autre. Puis ça peut arriver, justement, c'est la preuve que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Je veux dire, je suis jeune, j'étais en santé, j'ai jamais fumé, j'ai jamais rien fait. J'ai toujours été active. Je faisais du sport 7 jours/semaine, c'est tous les jours. J'ai toujours tout fait pour être en santé. Et je suis jeune, donc c'est la preuve, la plus belle preuve que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je pense que c'est surtout ça que les gens voient, c'est que ça peut être eux demain matin, ça peut être leur sœur, leur frère, leur mère, leur père, leur voisin, ça peut être quelqu'un qu'ils aiment. Donc, je pense que c'est surtout ça, ça les rejoint. Donc, c'est pour ça, je pense, que les gens donnent. Mm. Puis, pour ça, je...
Mais laisse pas 2 piastres, là.
Non, je sais.
C'est beaucoup.
C'est énorme, puis je pourrais jamais comme remercier autant que ce qu'ils me donnent. Mais c'est sûr, et sachez-le, que si je vis encore plein d'années, je vais donner au suivant. Ça, c'est clair. C'est juste que j'ai pas la possibilité présentement. Présentement, c'est mon tour. Je dois me faire aider, puis ça a été dur pour moi d'accepter ça.
Quand est-ce que ça vous est venu, là, l'idée de dire « je vais faire une campagne, un GoFundMe » parce qu'on en a vu quelques personnalités qui ont fait des GoFundMe pour se payer une tournée, se payer un CD, se faire... Là, on est autre chose. Là, on est rendu dans dire aux gens « aidez-moi à guérir ». On est-tu rendu là au Québec à dire « on va faire une campagne de financement pour se payer des soins qu'on peut pas avoir ici, mais qu'on va aller chercher ailleurs »
Oui, ben malheureusement, c'est sûr que on a fait beaucoup au Québec. On a essayé, on a vraiment essayé, mais on n'est pas rendu là où on est rendu ailleurs dans la médecine. C'est ça qu'il faut retenir, là, c'est qu'on n'est pas rendu aussi avancé qu'ailleurs. Donc, c'est pas tant la question d'argent, parce que je sais qu'éventuellement, quand on va être avancé, ça va être gratuit ici au Québec. Fait que c'est pas ça, c'est vraiment le fait qu'on n'est pas assez avancé, je pense qu'on prend pas de chance, de risque. En fait, on attend que ce soit approuvé ailleurs pour... qu'ensuite, nous, mais je m'avance en disant ça parce que je connais pas exactement tous les détails, mais ça, c'est juste mon feeling qu'on attend un peu trop peut-être au Québec avant d'approuver les choses, puis ça fait en sorte que les gens n'ont pas le choix d'aller à l'extérieur, veux pas, pour se faire guérir. Mmh. Parce que là, quand t'as plus d'options ici, t'as pas d'autre choix. Je veux dire, c'est ça ou t'acceptes la mort. Puis moi, je peux pas accepter la mort.
À 27
pas parce
ans,
que,
jeune
pas parce
maman,
que j'ai un garçon de 15 mois, juste pour ça, je peux pas.
Caroline, donc, ça, vous restez avec nous, bien sûr. On va s'arrêter ici. Est-ce qu'on n'est pas assez avancé au Québec? Est-ce qu'on prend trop de temps pour décider sur certains traitements, sur leur accessibilité, sur le fait qu'ils soient accessibles aussi gratuitement, c'est-à-dire remboursés par la RAMQ? Est-ce que c'est trop long ici par rapport à ce qu'on peut avoir comme service ailleurs? Évidemment, ça revient souvent dans l'actualité. Vous vous souvenez, à l'époque, nous, on avait beaucoup suivi ces cas-là de Québécois qui allaient se faire soigner, entre autres, en Allemagne, qui voulaient justement que le docteur Barrette, à l'époque, puis était mordu là-dessus, il n'en démordait pas, il disait que ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Si on vous le dit qu'il n'y a plus rien à faire ici, c'est qu'il n'y a plus rien à faire ici. Comme on n'est pas sûr de ça, on va aller fouiller. Tout de suite après la pause, on va d'ailleurs avoir un nouvel invité qui va se rajouter à notre discussion, qui va clarifier un peu toutes ces questions-là qu'on puisse avoir sur les traitements aussi, chimio, radio, curithérapie que Caro a subi d'ailleurs. Est-ce que, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je sais que vous en avez, vous aussi. Alors, ne vous gênez pas pour les poser et nous dire aussi de quelle façon vous êtes touché par l'histoire de Caroline Auger. Puis, est-ce qu'on en est rendu là, d'après vous? On est-tu obligé de faire des campagnes de financement pour aller se faire soigner aux États-Unis ou ailleurs sur la planète? Parce qu'ici, on se fait dire « merci beaucoup, mais ça ne sera pas possible de vous guérir ». C'est un peu pathétique si c'est ça. J'ai hâte de vous entendre. 514-790-9850 et sans frais le 1-866-790-9850. On parle ce matin de cancer. Il y a une personne sur deux qui risque de développer cette maladie. C'est une maladie qui nous fait tous peur. Vous êtes deux dans une pièce, puis il y en a un des deux qui va l'avoir. C'est un peu ça, là. C'est pas réjouissant. Ce matin, on veut pas mettre tout le monde plus down qu'on est déjà, mais il faut parler des vraies choses. Là, il y a l'histoire de Caroline Auger. Si vous venez de vous joindre à nous rapidement, Caroline est atteinte d'un cancer. Elle a 27 ans. Elle vient d'apprendre, il y a 16 mois, qu'elle a un diagnostic de cancer incurable. Elle a accouché le mois suivant ce diagnostic. Son fils, Lucas, a 15 mois. Elle veut se battre pour son fils, pour son conjoint. Cancer du col de l'utérus, et là, on vient d'apprendre qu'elle a également des métastases au poumon. C'est pas la meilleure des situations. Elle a témoigné de façon extrêmement touchante. Et comme elle veut mettre toutes les chances de côté, ici, de son côté, on lui dit, on va t'opérer, mais t'auras pas d'immunothérapie. Et Caroline veut en avoir. Et on lui dit aux États-Unis, il y a peut-être un traitement possible pour vous qui vous rallongerait votre vie. Et moi, je me mets à sa place, à votre place, Caroline. On prend tout, hein? On prend chaque minute,
chaque seconde, chaque jour.
Voilà. Ouais. On a avec nous, je pense que ça fait beaucoup réagir les gens, et Marc a une conjointe qui a un diagnostic de cancer incurable. Merci de nous appeler, Marc.
Merci.
On vous écoute rapidement. L'histoire de Caroline vous touche parce que vous êtes un peu dans le même bateau avec votre conjointe, c'est bien ça?
Pas mal, oui. Je te dirais même que c'est le bateau qui coule, là. On n'a pas vraiment d'aide. Côté finance, c'est pas mal tout moi qui supporte. Et je te dirais que c'est très, très, très dur. Et on n'a pas assez à ça.
Ouais.
Les comptes continuent à rentrer pareil. En tombant un aide naturel, c'est pas un choix, t'es obligé.
Est-ce qu'on lui a dit que c'était, je ne veux pas rentrer trop en détail dans le cas de votre conjointe, mais c'est incurable. Est-ce qu'on lui a dit, est-ce qu'on lui a donné un certain délai?
Ben, il pense pas plus que 6 mois. Mm. Là, il essaye toutes sortes de choses. Il y avait des pronostics qu'il voulait faire des opérations, puis ça l'a tombé à l'eau. Mm. Fait que ça ressemble pas mal à ça.
Est-ce que, quand vous regardez l'histoire de Caroline, la vôtre, et puis sans doute celle d'autres autour, c'est tellement courant, il y en a beaucoup là, de gens qui passent à travers ça, qui doivent vivre ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en est rendu, d'être obligé de faire des campagnes de sociofinancement, d'aller d'une certaine façon, qui a été un peu la générosité des gens pour s'aider? Là, vous dites les comptes rentrent pareil, la maladie te tombe dessus, mais les comptes continuent d'arriver.
Oui. Est-ce que je demande au gouvernement de t'aider, puis... C'est tout le temps de la paperasse, puis de la paperasse, puis de la paperasse. C'est épouvantable. Ils comprennent pas que t'as pas la tête à t'occuper des papiers. Mm. Fait que tout ce qu'ils disent, c'est ramenez-vous nos comptes, voilà, puis quand vous auriez plus rien, ben vous viendrez à l'aide de dernier recours. Ce que j'ai fait un matin, puis avec ce que moi je reçois par semaine, on n'a pas trop un gros montant pour madame.
Vous avez fait quoi ce matin exactement? Vous dites que vous avez eu accès à l'aide de dernier recours?
Ben, j'ai appelé pour avoir l'aide à l'accès de dernier recours. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il fallait absolument qu'on ait absolument plus rien, puis de ramener nos états de compte, puis ils vont faire un calcul en conséquence de savoir combien ce qu'ils pouvaient nous donner. Là, je madame, c'est parce que elle n'est même pas capable de se déplacer présentement, mais ça va prendre sa signature pareil. Il faudrait qu'elle se présente absolument parce qu'on peut pas donner des papiers comme ça vu qu'on est on est gouvernemental, là, on faut que l'argent aille à la bonne place.
Ouais.
Fait que c'est tout le temps de la paperasse.
Merci de nous avoir appelé, Marc. Bon courage. J'ai pas personnellement de solution pour vous ce matin. Je sais pas si Caroline a...
En fait, Marc, je peux pas vraiment vous encourager par rapport à l'argent du gouvernement parce que moi aussi, j'ai fait cette démarche pour avoir de l'invalidité et je l'ai toujours pas et ça fait quand même 16 mois. Et un jour, je vais l'avoir, ils me l'ont dit, mais c'est qu'entre-temps, on n'a rien. Puis je comprends. Je veux juste vous dire que je vous comprends à 100% parce qu'entre-temps, il faut s'arranger avec nos moyens puis on n'a pas vraiment de moyens. Donc, je veux juste sympathiser avec vous pour vous dire que je vous comprends puis de ne pas lâcher.
Merci beaucoup, Marc. Bon courage avec votre conjointe. Merci bien.
Vous avez fonctionné comment pour faire le GoFundMe?
Caroline?
Il faut juste aller s'inscrire, tout simplement. Il faut juste aller sur GoFundMe, sur le site Internet, s'inscrire, c'est tout simple. Faites-le.
Merci, Marc. On va suivre ça. Donnez-nous de vos nouvelles et de votre conjointe également. Francis nous appelle. Bonjour, Francis.
Bonjour.
Je vous écoute.
En fait, moi, mon père est décédé il y a 2 ans d'un cancer du poumon. Puis moi, je considère qu'il a été victime carrément du système québécois. En ce sens que moi, je suis d'accord avec madame à savoir que le système ne questionne pas assez les alternatives qu'il pourrait avoir comme traitement. Moi, je trouve que c'est vraiment... Les vieux sont envoyés sur une espèce de ligne, puis c'est la chimio, c'est la radio, puis c'est comme ça que c'est arrivé avec mon père, puis moi, je m'en veux beaucoup de ne pas avoir réussi à convaincre ma mère, mon père, de prendre des traitements alternatifs, notamment de l'huile de cannabis, plein d'autres choses bon, qui existent, que le système ne fait pas la promotion, puis je suis vraiment très amer de la situation, puis c'est clair que si ma mère ou une autre personne prend le cancer, que ce soit moi aussi, c'est certain que je vais me tourner sur autre chose que le système classique. Là.
Mais je vais vous dire, Francis, je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire. Puis juste dernièrement, là, on a parlé de vitamine C. Là. Si vous saviez oui. le monde qui nous sont tombés dessus, là, on s'entend, on parle d'injection de vitamine C. Là, on parle même pas, là, vous venez de dire cannabis. Là, remarquez que là, maintenant, oui. c'est légal. Mais c'est fou, là. Il y a comme un lobby anti. Moi, ça me fait juste dire, garde. Pourquoi t'arrêtes pas d'ostiner là-dessus si t'as des centaines de Québécois qui te disent que ça les soulage? Ça devrait être assez convaincant. Après, le monde, ils demandent juste d'avoir accès à des injections de vitamine C en haute dose. Même pas à la rigueur qu'on les paye, là. À la rigueur, juste qu'ils aient le droit d'aller voir leur médecin puis que leur médecin ne soit pas gêné de le faire. Là, les médecins, ils n'ont même pas le droit. Fait qu'imaginez, là, que là, vous parlez de traitements alternatifs pour guérir le cancer ou pour soulager.
Je m'excuse de vous couper.
Allez-y.
J'ai parlé avec le médecin de mon père. J'ai demandé ce qu'il pensait pour le cannabis. Il m'a dit oui, ça existe depuis une couple d'années, mais moi, si vous faites ça, je ne vous suis pas là-dedans.
Ouais.
Et puis, ma mère a beau avoir pris plusieurs avis de plusieurs médecins, ça revient toujours un peu à la même chose. Puis, moi, je pense que l'exercice qui a été fait au niveau de la construction, on pourrait la faire au niveau médical. Je connais quand même des gens dans le milieu de la santé. Moi, je suis un ancien journaliste régional, puis je connais quand même des gens dans ma famille. Travaillent, qui se rendent compte quand même qu'il y a des cadeaux qui se font autant comme la construction, puis qu'il y a un ménage à faire, surtout avec le passage des médecins à la tête de l'État. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Les journalistes devraient se mettre là-dessus.
Un genre, une espèce de commission à la Charbonneau pour voir c'est quoi le club des petits amis dans les soins de santé. Oui, oui. C'est ça que j'allais vous dire. Ouais, ouais. Merci, Francis. Je vais vous présenter mon prochain invité. C'est le docteur Régent Lapointe. Il est responsable de l'axe cancer au Centre de recherche du CHUM. Il est directeur scientifique à l'Institut de cancer de Montréal. C'est pas mal le top des chercheurs en immunothérapie du cancer. Il travaille dans le domaine depuis plus de 20 ans. C'est pas un médecin de famille, c'est vraiment un chercheur en cancer. Vous êtes un expert du cancer. On est très content de vous avoir, Dr Lapointe. Je voudrais votre réaction d'abord face au témoignage de Francis, de Marc avec sa conjointe et surtout de Caroline Auger. Quand vous avez vu ça, quand vous entendez ce matin les témoignages, quelle est votre réaction par rapport à vos propres recherches sur le cancer?
Oui, en premier lieu, bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment, évidemment, extrêmement touché par le témoignage de Mademoiselle Auger. Ça brise le cœur, évidemment. Surtout quand on est parents, qu'on a des enfants, ça me fait penser à ma grande fille, là,
une
jeune femme tellement bien articulée, intelligente et qui a un défi de vie absolument affreux. Là. Et je pense que tout le monde, dans nos familles proches, on a perdu des gens du cancer et on les a suivis jusqu'à la fin. Et c'est
puis on a
certains, heureusement, grâce à la médecine et à la recherche, on a pu proposer des traitements quand la maladie n'est pas trop avancée et tout ça. Mais c'est des catastrophes de vie, là. Il y a pas, c'est certain. Là.
Vous êtes là-dedans tous les jours, vous cherchez des solutions. À cette maladie qui frappe beaucoup de monde. 50 % des Québécois qui vont le développer, c'est énorme. Caroline disait que selon ce qu'elle en comprend, visiblement, on lui a dit, ben là, pour vous, c'est fini. Mais elle voit qu'ailleurs, entre autres, à Boston, c'est bien
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
Il y aurait une porte ouverte. Évidemment, c'est ce traitement qui coûte très cher en immunothérapie. Ce à quoi on lui a dit ici, non, ici, on ne fait pas ça. Si on vous opère, vous ne pouvez pas avoir de l'immuno. Moi, je voulais savoir comment ça marche, ça. Qui décide? Je sais que c'est pas vous, là, mais vous êtes un chercheur en cancer. Est-ce qu'on est effectivement pas assez avancé ici au Québec? Est-ce qu'on prend trop de temps pour donner des traitements qui sont accessibles ailleurs, les donner ici? C'est quoi le problème? Pourquoi Caroline devrait aller à Boston?
Quand il y a des nouveaux traitements qui ont passé à travers tout le processus d'évaluation. Là. On fait les découvertes dans nos labos, après ça, on traite des souris, après ça, on produit un nouveau médicament sur la base du principe. Et là, il faut faire les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3. Ça prend des années, des millions, des dizaines, centaines de millions de dollars d'investissement. Et là, whoop, il y a un médicament qui finalement fonctionne. Et là, avant qu'il soit donné par des médecins en tant que standard de traitement, ben il faut que ça soit autorisé par des organismes. Aux États-Unis, on entend souvent le FDA, le Food and Drug Administration, qui est l'équivalent de Santé Canada chez nous. Alors, eux, ils vont regarder les résultats de recherche, ils vont dire, oui, ce médicament-là, on est d'accord, il fonctionne sur la base d'un paquet de critères qui sont très, très rigoureux, très importants qu'ils soient rigoureux. Et là, on dit, oui, OK, maintenant, la compagnie X peut la commercialiser et les médecins dans toutes les cliniques à travers les États-Unis, on parle des États-Unis, peuvent l'utiliser. Un coup que ça arrive, ben nous, au Canada, souvent, on va suivre ce que le FDA va recommander. Donc, Santé Canada va faire la même chose, mais ça va prendre des mois, souvent, avant que la décision soit prise, que ça soit décidé que oui, nous aussi, on est d'accord, il peut être utilisé dans notre système de santé publique. Et chaque province, après ça, doit aussi faire sa propre analyse sur la base de toutes sortes de paramètres qui sont défendables et peut-être aussi questionnables. Rien n'est parfait, mais juste pour dire que rebond entre l'acceptation et l'authentification par l'FDA aux États-Unis.
Mais est-ce qu'on attend toujours
chez nous, au CHUM, au CUSUM, à Québec, ça prend du temps. Et quand c'est toi qui as le cancer, t'as pas le temps d'attendre.
Ben, c'est ça. Mais est-ce qu'on est toujours à la remorque, la FDA? C'est ça que vous me dites?
Oui, c'est un peu ça, en fait.
Assez souvent,
On attend ce que font les Américains, puis là, on agit, là.
Ben, c'est que le gros de la recherche se fait là-bas. Ici aussi, on en fait beaucoup d'innovations, c'est certain, là. Mais en bout de ligne, assez souvent, c'est le FDA qui va prendre la direction de ça.
Et vous faites de la recherche en immunothérapie. Ça, c'est comme une nouvelle approche. Expliquez-nous un peu ce que c'est que l'immuno par rapport à la chimiothérapie, par exemple.
Bien, de façon générale, on pourrait dire qu'en cancer, il y a comme trois approches pour essayer de lutter contre la maladie. La chirurgie, évidemment. Ouais. Physiquement, on enlève le cancer. La chimiothérapie, on donne des poisons qui vont s'attaquer assez spécifiquement au cancer, mais qui, évidemment, on sait que ça donne des effets secondaires et tout. Mais dans plusieurs types de cancers, dans plusieurs cas, ça peut être évidemment très efficace. Et la radiothérapie, on utilise des radiations pour tuer les cellules cancéreuses. Heureusement, maintenant, année après année, on voit qu'on a de moins en moins de mortalité avec le cancer parce que la recherche avance et tout ça. Mais depuis à peu près 8-9 ans, il y a une révolution en oncologie qui est l'immunothérapie. Donc, l'immunothérapie du cancer, comme le nom dit, immuno, c'est le système immunitaire qui est notre organe de notre corps qui nous aide à nous défendre contre des infections, contre des bactéries qui sont dangereuses ou des virus ou d'autres dangers. Alors, on est capable maintenant, en clinique, avec ces nouvelles immunothérapies, de dire au système immunitaire, tiens, regarde le cancer, va l'attaquer puis élimine-le.
Mais touche pas le reste du corps.
Et touche pas le reste. Bon, il peut avoir des effets secondaires comme n'importe quelle intervention.
Mais c'est moins pire que la chimio.
Ça dépend de quel type de chimiothérapie. Ouais. Comme généralité, on pourrait dire oui.
Ça dépend des gens aussi.
Ça dépend des gens.
Parce que chaque cas est unique.
Ouais. Vous avez absolument raison. Donc c'est ça l'immunothérapie.
Mais c'est donc plus précis comme traitement. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ben, c'est plus précis. Et ce qui est assez fascinant, c'est que quand on fait la radio, chimio ou chirurgie, on attaque directement la tumeur. C'est la cible, c'est la tumeur. Alors qu'en immunothérapie, on n'attaque pas la tumeur. On passe par le système immunitaire. On dit au système immunitaire, va attaquer la tumeur. Donc, ce n'est pas une intervention qui se fait directement contre les cellules cancéreuses. C'est quand même assez fascinant. Puis pourquoi je dis il y a 7-8 ans, ça a changé? Parce que ça fait depuis le début du 1890 qu'on fait de la recherche en immunothérapie. Ça fait très longtemps. Mais d'arriver maintenant à avoir des médicaments qui sont donnés par des médecins ici au Québec, partout dans le monde, pour traiter les gens en immunothérapie, c'est récent.
Moi,
comme vous avez dit, ça fait plus que 20 ans que je fais de la recherche en immuno-oncologie. Puis je peux vous dire, dans les années 2000, c'était un peu déprimant, même pas mal déprimant. Tous les essais cliniques, il n'y avait à peu près rien qui fonctionnait. On pouvait guérir des souris qui ont le cancer, pas de problème. Mais quand on utilisait les mêmes principes chez l'humain, ça n'allait pas très bien. Ouais. Mais depuis le début des années 2010, maintenant, ça s'est mis à fonctionner. Puis là, ben, mois après mois, il y a des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments en immunothérapie qui sont autorisés par FDA, Santé Canada et les autres pour plusieurs types de cancers, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas miraculeux. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a aucun miracle en médecine.
Docteur Jean Lapointe, vous restez avec nous. C'est un expert en cancer. Il est chercheur en immunothérapie. On va revenir d'ailleurs sur l'immunothérapie et aussi sur le fait que Caroline Auger donc, se fait dire à 27 ans, vous avez une tumeur, on va vous l'enlever, mais si on vous l'enlève, vous n'aurez pas d'immunothérapie. Or, pourquoi pas avoir aussi ça? Hein? C'est ce que vous posez comme question.
Oui, effectivement.
Surtout qu'à Boston, vous a dit, ben oui, nous, on fait les deux en même temps. Donc, on va s'arrêter ici. On revient tout de suite après la pause. Nos lignes sont pleines. On va prendre vos commentaires également là-dessus. On se demande si on en est rendu à faire des campagnes de socio-financement pour aller se faire soigner aux États-Unis ou ailleurs pour avoir accès à des traitements qu'on nous refuse ici, 514-790-9850. Pour se faire soigner aux États-Unis, avoir accès à des traitements qu'on nous refuse ici, on est-tu rendu à faire du socio-financement, d'aller sur GoFundMe, de s'ouvrir une page? C'est ce qu'a fait mon invitée Caroline Auger, 27 ans, un petit garçon de 15 mois, un mari aimant, la vie devant soi, sauf que là, le cancer est venu frapper. On lui propose de l'opérer, mais ce que je comprends de votre histoire, Caroline, c'est que si on vous opère, qu'on vous enlève la masse, le critère pour avoir accès à l'immunothérapie vient de tomber? Parce qu'il y a des critères qu'on vous a dit.
Oui, c'est ça. Au Québec, en fait, il y a des critères ici parce qu'on est en essai clinique. Donc, il faut cocher tous les critères pour avoir accès à l'immunothérapie ici. Ce qui arrive si on m'opère ici, on enlève la masse. Donc, le critère a une masse, on le coche pas. Donc, j'ai pas accès à l'immunothérapie. Sauf que j'ai encore du cancer dans le corps. Le cancer est encore présent. Les masses vont revenir et tout ça. Donc, ça fait en sorte que j'ai le cancer, mais eux, la cause, la masse est plus cochée. Je peux plus avoir l'immunothérapie malgré que le cancer est encore là. C'est pas la masse, c'est pas tout le cancer. Donc, on n'avait pas une masse pour dire j'enlève tout le cancer. C'est ça qui fonctionne pas. Puis là-bas.
J'imagine, vous l'avez dit à votre médecin. Voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ces affaires?
Oui, mais c'est ça, c'est vraiment une
question. Il lui dit quoi? Il dit, ben, moi, je suis obligée de cocher des petites cases.
C'est même pas elle. C'est elle a fait la demande pour que quelqu'un, je sais pas qui, regarde les critères, regarde si je coche tous les critères et là va voir non, il y a une opération, ont enlevé la masse, donc ne peut pas cocher le critère ici au Québec, n'a pas accès à l'immunothérapie en essai clinique. Malgré ça, j'ai accès à l'immunothérapie ailleurs parce qu'ils n'ont pas ces critères-là étant donné qu'ils ne sont plus en essai clinique. C'est ce qui se passe.
Docteur Régent Lapointe, vous êtes expert en cancer. Comment vous voyez? Vous comprenez cette approche?
Ce genre, ben, si je voudrais juste poser une question. Vous avez dit ici, vous pourriez avoir accès à l'immunothérapie dans le contexte d'un essai clinique.
Oui, dans le contexte d'un essai clinique.
Donc, ce n'est pas dans le contexte d'une thérapie standard soutenue par le système de santé.
Non, juste en essai clinique. Okay. Et à cause de ça, il y a les critères. Puis, je peux y avoir accès, mais c'est dans plusieurs mois. Elle m'a dit il y a des mois de délai. Et étant donné que je n'ai pas nécessairement des mois à vivre, je ne peux pas prendre la chance de dire, OK, je vais attendre. Puis, on va attendre de voir si je vais avoir l'essai clinique ou non.
Ça, sur les délais, il y a aussi... C'est un autre débat, là, mais c'est relié quand même. Je me souviens d'une dame là, qui s'était fait dire par son... Elle venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, puis son médecin lui dit, « Madame, écoutez, je ne veux pas être décourageant, mais moi, je dirais que vous en avez à peu près pour 2 mois. » C'est quand même raide de se faire dire ça. « On va vous donner un rendez-vous. » Le rendez-vous, on lui a donné dans 3 mois.
Oui, c'est ça. Il y a toujours des espèces de choses comme ça.
C'est ridicule.
C'est tout le temps comme ça. C'est des montagnes russes. On dit, ça va aller vite, puis finalement, il y a tout le temps quelque chose.
Docteur Lapointe.
Moi, je ne suis pas là pour défendre personne. Là, mais je veux juste quand même préciser quelque chose. C'est qu'il y a deux choses là. Si vous allez voir votre médecin, vous avez un problème ou un problème de santé, quoi que ce soit, le médecin, il va suivre les standards de traitement. Mm-hmm. Là, vous, dans votre cas, le standard de traitement, il n'est pas encore accessible au Québec. Il est accessible aux États-Unis. Là, au Québec, on pourrait vous le donner, mais dans un essai clinique. Ça, c'est de la recherche clinique. Ce n'est pas des traitements standards.
OK, mais Caroline a vu.
Oui, mais c'est parce que dans l'essai clinique, puis là, encore là, je ne connais pas le fin détail de l'essai clinique, mais si vous... il y a des critères d'inclusion.
Moi, à sa place, amène-en les essais cliniques. Amène-le. Vous, dans le fond, à la rigueur, là, au point où tu en es, quand tu as ce genre de diagnostic, tu es prêt à être cobaye, là, hein?
Oui,
Caroline.
2 points. Ouais. Un essai clinique, il faut que ça soit c'est froid, c'est rigide, c'est rigoureux. Il y a des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Je connais pas le fin détail de ça, là, mais c'est comme ça un essai clinique. Et nous, au Québec, je peux vous dire que présentement, dans les centres de recherche, et en particulier au CHUM, on est en train d'ouvrir un centre d'innovation thérapeutique, justement parce qu'on veut être capable que lorsqu'on est avec un patient, on a donné la première ligne de traitement, deuxième ligne de traitement, ça fonctionne plus, qu'on puisse dire, on peut vous offrir un essai clinique pour amener des innovations. Ben, c'est ça qu'on est en train de monter. Est-ce qu'on peut le faire pour tous les patients?
Donc c'est là, énorme, vous dites, mais on est en train de monter.
On le fait déjà, mais je veux dire, ça prend du temps à monter ces choses-là. Mais on a déjà des essais cliniques qu'on appelle phase 1, phase 2, qui sont très précoces, très innovatrices, que quand le patient, malheureusement, on ne peut plus lui offrir. Puis même, il y a un essai clinique que nous, on avait commencé, je ne peux pas donner le spécifique, mais à travers les années, notre essai clinique est plus valable, maintenant, le gouvernement donne le médicament.
Ah.
Nous, on avait fait l'essai clinique parce qu'évidemment, on est des chercheurs, on veut faire avancer les connaissances, mais on voulait amener quelque chose de nouveau aux patients qu'on ne pouvait plus traiter. Puis là, on pouvait le faire avec cet essai clinique-là. Puis là, on a été obligé d'arrêter notre essai clinique parce que dans l'entretemps, Santé Canada et le Québec ont accepté de donner le médicament. Donc, tu sais, c'est ça. On essaie d'utiliser les essais cliniques le plus possible pour faire avancer la recherche.
Ça veut dire que le monde travaille en silo aussi.
Et aussi pour pouvoir offrir des alternatives aux patients quand la médecine moderne, traditionnelle, ne peut plus rien faire. Parce que c'est une sacrée maladie, le cancer.
Ça veut dire que vous êtes en silo, parce que ça veut dire, de ce que vous venez de me décrire, là, si pendant ce temps que vous faites votre essai clinique, vous essayez de solutionner la vie des patients, puis en même temps, Santé Canada, puis le gouvernement du Québec, la RAMQ décident d'autres choses de leur côté chacun,
Non, c'est juste qu'on s'est fait rattraper par... Il faut comprendre, c'est comme une grosse vague, présentement, l'immunothérapie du cancer. Comme je disais tout à l'heure, là, à chaque mois, il y a des nouveaux médicaments qui sont acceptés d'être utilisés comme thérapie standard pour des nouveaux types de cancers. Ça va très, très, très vite. C'est assez hallucinant. Puis c'est tellement de révolution, l'immunothérapie, qu'on a donné le prix Nobel l'an passé à deux chercheurs, Dr. Allison et Anjo, qui sont les grands pionniers en immunothérapie du cancer.
Donc, c'est puis un Japonais, c'est
oui,
ça?
Oui, ça va tellement vite. On parle aux compagnies, tout ça. On leur propose des essais cliniques. Ils disent, ouais, mais il est déjà trop tard parce que c'est sur le bord d'être accepté par la FDA. Ça va à une vitesse folle. Mais est-ce que ça va assez vite? Non.
Pour les patients,
ça va jamais assez vite.
Mais là, d'après vous, est-ce qu'elle devrait y aller aux États-Unis, à Boston, Caroline?
Oui. Oui, puis encore là, je suis pas là pour défendre personne, mais je suis pas prêt à tirer sur notre système de santé à cause de ça.
Non, moi non plus.
J'espère juste que ça va aller plus vite, mais...
Mais elle a raison, là, de prendre
vague,
le 200 000 puis d'y aller, là.
Ben, c'est pas... moi, c'est pas...
Oui. Oui.
J'aurais tendance à dire oui, mais il y a peut-être certains bémols à mettre, là, mais si c'était ma fille, j'essaierai de l'aider, oui, évidemment. Mm.
Parce que c'est pas une attaque contre le système, ce que je fais présentement. Le système m'a aidé au maximum. Mes oncologues, je les ai adorés. Ma radio-oncologue, elle fait tout chaque jour pour moi. Je peux l'appeler, elle va me répondre. Tout de suite, elle va m'aider. C'est même, tu sais, je l'ai demandé même à elle, est-ce que je devrais y aller? Elle me dit oui, tu devrais y aller.
Mais ça veut dire que même les médecins sont d'accord avec le fait qu'ici, on a des limites assez
évidentes. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est que le problème, c'est les délais. C'est ce qui se passe ici, mais... En même temps, je les comprends, ces délais-là. C'est juste que pour nos vies à nous, on les a pas, on n'a pas ce temps-là, donc on n'a pas le choix.
Faut que j'aille à la pause absolument. Vous vouliez rajouter quelque chose, docteur?
Très rapidement, faut faire attention aussi. Il n'y a pas des miracles partout, avec n'importe quoi. On pourrait même reparler avec l'affaire du docteur Zamboni, il y a quelques années, en sclérose en plaques, qui s'est révélé être totalement inefficace dans des essais cliniques très rigoureux. Donc, tu sais, il n'y a pas de miracle à
non,
à tous
mais
les
quand
points.
Tes oncologues te disent, écoute, et puis vous-même, expert en cancer, quand vous dites, si c'était ma fille, je dirais, vas-y. Je pense que là, les gens qui ont donné à Caroline se disent, bon, ben au moins, on a fait une bonne œuvre. D'ailleurs, j'en profite pour dire, vous pouvez aller sur sa page gofundme.com, page Caro Auger, pour aider cette jeune femme à avoir accès à cette immunothérapie qu'on lui refuse ici, à cause des délais, puis des petites coches, là, vous savez, des petites coches. Non, on ne peut pas cocher ça. Eh, hey, boy, on revient tout de suite après. On va parler à Valérie qui écoute notre discussion. Bonjour, Valérie.
Bonjour.
On vous écoute.
C'est ça brise le cœur, c'est clair. Là. Puis ce qui est inacceptable, c'est que ça se passe à tout point de vue, puis partout. Aux États-Unis, moi, j'ai beaucoup d'amis qui vendent leur maison, qui font qui demandent, qui quêtent littéralement, qui pour essayer de faire, tu sais, soigner leurs enfants. On a un bon système ici qui permet à la majorité des gens d'avoir des soins, chose qui est presque pas... on est chanceux au Canada de pouvoir avoir accès à ça parce que ailleurs dans le monde, les gens meurent sur le trottoir.
Là. Ah ouais, mais non, c'est sûr. Il y a des endroits où c'est pire, vous avez raison de le... Mais, tu sais, moi, me comparer au pire, c'est jamais mon premier réflexe. Là. J'aime mieux me comparer
aux États-Unis.
Oui, non, mais c'est
si t'as pas la bonne assurance, puis moi, j'ai
vécu
là
clair,
longtemps.
C'est sûr.
Si t'as pas la bonne assurance, t'as beau vivre dans le pays le plus riche, le plus avancé au monde.
Ah, c'est l'argent, regarde. Faut...
Ouais, c'est sûr, il y a environ 50 000 personnes qui meurent aux États-Unis par année parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Oui, tout à fait. Mais ils doivent faire comme Caroline. Ils font du sociofinancement, ils vont hypothéquer leur maison, ils vendent tout. Je veux dire, on n'est pas forcément mieux que les Américains des fois. C'est juste ça que je veux dire. Merci beaucoup, Valérie, de votre appel. Anita, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Je voulais vous dire de continuer. Continuez, qu'est-ce que vous faites? Allez-y à Boston. Puis, peu importe dans la situation dans laquelle on est, moi, je l'ai vécu avec ma mère. Ma mère, elle avait fait une partie de sa vie. Elle avait 62 ans. Elle a eu un diagnostic de cancer du pancréas. Puis, croyez-moi que moi et ma soeur, on a cherché jusqu'en Allemagne pour pouvoir l'aider.
Et faire le maximum.
Puis, oui, malheureusement, on n'a pas pu se rendre là parce que ma mère, elle nous a quittés plus tôt que prévu. Mais il faut que vous gardiez espoir, puis il faut chercher les solutions. Il y a personne qui peut vous enlever ça, l'espoir de vivre.
Ouais.
Puis je crois que toutes les études, tout ce qu'on peut essayer, les patients devraient avoir accès à ça parce que c'est leur vie. C'est à eux de décider s'ils essaient ou pas.
Mais vous avez raison, Anita, en même temps, il y a la réalité. Puis là, je peux vous dire, je reçois une foule de courriels de gens qui disent « Hey, avec quelques sacres que je vous épargne. Comme Joanne qui me dit, ça se peut pas. Puis je comprends là, que des fois, on peut pas faire... Ça peut paraître une réflexion premier degré de dire, hey, on donne des millions, 60 millions pour Théo Taxi. On a donné des milliards à Bombardier. C'est ce que les gens me disent. Là. C'est sûr que c'est pas, vous allez me dire, c'est pas les mêmes ministères. C'est pas, on peut pas forcément penser comme ça. Mais je pense que je la comprends, la réaction des citoyens qui disent, voyons donc, on met-tu notre argent où il devrait aller? On met déjà quand même beaucoup en santé, il faut quand même le dire. Peut-être pas assez en recherche, docteur Lapointe, vous avez trouvé, mais c'est vrai que je comprends ce que Joanne veut dire quand elle dit, hey, on flambe l'argent à certains endroits, puis on est rendu à dire, ben là, les gens, ils n'auront pas accès parce que ce sont des protocoles qui coûtent cher ou des médicaments qui coûtent cher ou les soins coûtent cher. Votre réflexion là-dessus, docteur?
Je vais prêcher pour ma paroisse. Si on n'a pas, on ne peut pas avoir de nouveaux médicaments et des innovations si on n'a pas de recherche.
C'est ça. Puis les recherches, ça coûte cher.
Comme je vous disais, ouais. Les deux qui ont eu les prix Nobel l'an passé, à cause que c'est nos grands pionniers en immunothérapie du cancer, docteur Allison et Anjo, à la base, c'est des chercheurs. C'est des gens qui ont des PhD, je pense, en tout cas. Je pense que Dr. Allison, oui. Il a PhD comme moi. Ce sont des chercheurs. Et ils ont, grâce à leur recherche, maintenant, il y a des milliers de vies, c'est pas des dizaines ou des centaines de milliers de vies maintenant qui sont sauvées grâce à leur recherche. Donc, c'est sûr que la recherche, c'est la base de l'innovation. La recherche d'aujourd'hui, c'est les médicaments de demain.
On va trouver, vous pensez, une cure au cancer?
Moi, dans mon cœur et même dans mon cerveau plus rationnel, pour moi, c'est absolument clair. Le cancer est une atroce beauté de complexité et c'est extraordinairement difficile de bien cerner. On pensait que ça allait être facile il y a des dizaines d'années, mais chaque cancer est différent. Chaque personne, sa tumeur est différente.
Même le même cancer sur... Un cancer qui revient sur une personne est différent une deuxième fois, c'est même pas... C'est ça,
tout à fait. Tout et je vais juste terminer en disant que chaque métastase peut être différente. Et à l'intérieur même d'une masse tumorale, tu peux prendre des petits morceaux ici et là, et chaque petit morceau va être différent. Maintenant, on le sait, on est capable de faire des analyses extrêmement poussées. À l'intérieur même d'une masse tumorale, c'est tout différent partout.
Oui, parce que ma biopsie du poumon, ils ont eu de la difficulté à dire est-ce que c'est le même cancer que le col du virus ou c'est un autre. Ça, c'était pas clair pour eux parce que ça semble différent, on n'est pas sûr. Donc, c'est comme vous dites, il a fallu reprendre un autre échantillon pour confirmer, là, OK, c'est vraiment le même cancer.
Caroline Auger, je sais que cet après-midi, vous avez un contact avec cet hôpital, donc à Boston.
Oui, à Dana-Farber. À 2 heures, j'ai un appel pour commencer l'analyse de mon dossier. Là. C'est sûr qu'ils ont déjà mon medical record. Ils ont déjà ça là-bas. Ils ont déjà beaucoup de choses, sauf que cet après-midi, c'est le premier vrai contact parole d'humain à humain, là, pas juste par courriel. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner puis avoir plus de détails. C'est sûr que je vais vous laisser savoir sur ma page GoFundMe. Je vais faire un update sur mon Facebook, donc vous pouvez me suivre. C'est en fin d'après-midi, j'imagine que je vais faire un update pour vous donner toute la suite de ça.
Et on vous a dit que ça coûterait combien?
En gros, en moyenne, ça coûte, pour l'immunothérapie à cet endroit-là, en moyenne 1,2 million de dollars au total. Parce que là, ça, l'argent que j'ai demandé, c'est pour un premier traitement, c'est pour commencer, c'est pour débuter. Donc, c'est sûr qu'au total, ça coûte en moyenne 1,2 million, mais je vais demander, c'est sûr, cet après-midi, moi, s'ils savent la molécule que je vais avoir, le prix de cette molécule-là et l'estimation au total, mais c'est sûr qu'ils pourront pas me dire parce que chaque personne est différente. Comme le docteur vient de le dire, chaque cas est différent et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'il analyse avant de pouvoir me dire exactement. Bon, mais madame, on pense que ça va vous coûter de temps, mais j'aimerais juste savoir une petite estimation, une petite idée pour laisser les gens savoir.
On en est à plus de 190 000 $. On espère que notre discussion va encourager les gens, les bonnes âmes généreuses à contribuer un peu. GoFundMe.com, page Caro Auger. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été là avec nous.
Merci, courage.
Puis on vous donne plein d'amour, plein d'énergie. Merci, docteur Lapointe.
Merci.
Merci beaucoup.
De votre présence. Bonne chance.